On va pas lire le chapitre entier, on va regarder ce psaume et voir quelques versets de par la suite. D'abord, on va voir le verset qui nous intéresse dans ce psaume 31. Et c'est le tout dernier verset. J'aurais pu dire, on va lire jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'au verset qui nous intéresse. On va jusqu'au verset 25. Et on va lire quelques versets dans un instant. Mais pour avoir le thème de si je devais intituler ce message, je dirais le remède contre un cœur faible. Le remède contre un cœur faible. Parce qu'il nous dit dans ce verset 25, dans Psaume 31, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Il y a pas mal de choses à apprendre de ce verset, beaucoup plus de ce qu'on verra ce matin. Il y a tellement de choses qu'on verra, qu'on pourrait apprendre de beaucoup des versets qui se trouvent dans ce psaume 31, comme c'est souvent le cas. Mais si on peut déjà rien que retirer quelques vérités ici et là de ce verset 25, je crois qu'on en ressortira pas seulement encouragé, béni, mais peut-être, comme il nous le demande, un peu plus fort, fortifié, encouragé, prêt à continuer le combat. Le verset premier, hein, nous dit au chef des chants, psaume de David. Donc, on voit que c'est un psaume que Dieu a utilisé, le roi David, pour écrire. Hein, nous savons que la Bible, la parole de Dieu, peu importe qui Dieu utilise pour écrire chaque livre, si cette personne écrivait ses propres pensées et que c'était juste ses propres pensées seules, ça ne ferait pas partie de la parole de Dieu. Et ça aurait son importance sur le point de vue historique, rien de plus. Mais quand Dieu a choisi de nous révéler qui il a voulu utiliser, hein, pour écrire ce livre, ou comme ici ce chapitre, ben, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'histoire de cette personne, ses expériences et son témoignage. Pour voir, ben, il n'écrit pas seulement quelque chose, une vérité qu'il a entendue et compris ou enseigné, mais qu'il a vécu. Et quand on connaît l'histoire et la vie de David, ici par exemple, ça nous aide et nous ramène les lois et les vérités que Dieu nous donne à travers cette personne et ça les met à un autre niveau. C'est pas juste Dieu dans son trône là au ciel qui nous dit voici ce que je demande de vous et que c'est pas quelque chose qui a l'air d'être impossible à atteindre. Non, Dieu utilise une de ces personnes qui a vécu ces choses, qui nous disent, voici ce que Dieu dit. Et s'il l'a fait à travers moi, il peut le faire à travers toi. Et nous avons l'exemple d'une personne qui est comme nous, qui non seulement approuve les vérités de Dieu, mais qui en ont fait l'expérience. Il dit, je vous le déclare, c'est vrai. Dieu dit. Et comme on peut s'y attendre, Dieu ne s'est pas trompé. Bon, je parle spécifiquement des vérités bibliques. Hein, je ne parle pas de quand Dieu a utilisé une personne pour faire des choses surnaturelles. Bah, s'il l'a fait pour lui, moi aussi, je peux aller boire de la somme et partager la somme et marcher de l'autre côté. Non. Vous comprenez bien ce que. Faut pas dire ce que je ne dis pas. Mais quand Dieu nous dit, voici qui je suis, voici ce que je veux faire pour toi. Spécifiquement, voici ce que je désire de mes enfants. Ben, ce sont des vérités auxquelles on peut s'accrocher. Les vérités que Dieu nous donne ne sont plus des choses théoriques, hein, mais Dieu nous les a données parce que il s'attend. C'est pas juste qu'il veut, mais il s'attend à ce qu'on les mette en pratique. Et ce psaume 31 est un de ces multiples exemples qu'on pourrait tirer de la vie de David, parce qu'on connaît David, nous pouvons lire quelle vie il a vécue et de comment il est allé d'un héros en terrassant ce géant Goliath à un fugitif, d'un fugitif à un roi qui, on a vu, n'était pas parfait, mais que Dieu n'a jamais cessé d'aimer, que Dieu n'a jamais cessé de protéger et que Dieu n'a jamais cessé de garder non plus. Il n'a pas excusé non plus quand il a fait mal, mais il ne l'a pas renié non plus. Quand nous lisons les versets comme ben, versets 2 à 4 hein, de ce même chapitre, David parle de son expérience. Il dit, Éternel, je cherche en toi mon refuge. Quand jamais, que jamais je ne sois confondu, délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher, un protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Il parle de lui, il parle de son expérience, de ce que lui, il a besoin et de ce qu'il a déjà vécu aussi. Verset 6 également. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Verset 8. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. On dit, mais ça c'est un verset où ces déclarations devraient être s'opposer. Il dit, je serai dans l'allégresse et dans la joie, mais tu vois ma misère, tu vois l'angoisse de mon âme. Pour l'inconverti, ce sont deux choses qui ne devraient pas cohabiter. Mais pour David, à cause de les versets qu'on vient de lire, c'est en toi mon espoir, c'est en toi ma forteresse, c'est toi mon refuge, c'est toi mon protecteur, etc. J'ai des angoisses, j'ai des problèmes, j'ai des choses qui me font peur, etc. Mais ces choses ne m'empêchent pas de voir qui tu es, toi, et donc de garder cette joie, cette espérance que j'ai en toi. Et ça, on va y venir. Donc, il parle de son expérience, des choses qu'il a déjà vécues. Les versets 2 à 4, les versets 6, verset 8 et encore le verset 10. Il dit, aie pitié de moi, Éternel. Il reconnaît, je ne mérite pas. Aujourd'hui, on dit, j'ai besoin de ta grâce, fais-moi grâce aujourd'hui. Donne-moi ce que je ne mérite pas, les bonnes choses. Et aie pitié de moi aussi. C'est grâce et miséricorde liées ensemble. Ne donne pas la justice dont je mérite, mais fais-moi grâce. Aie pitié de moi, Éternel. Je ne le mérite pas, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Verset 15 nous dit, il continue, hein, du verset 10 à 15, ce verset 10 déjà parle beaucoup, je suis dans la détresse, etc. Mais il dit, mets en toi. Ça, c'est le tournant de ce chapitre. En plein milieu, il y a ce temps, il dit, mets en toi, je me confie au Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Et là, on voit un changement dans le reste du chapitre. Et ce n'est pas que Dieu lui a déjà donné une réponse, ce n'est pas que Dieu lui a déjà donné une délivrance, ce n'est pas que tu m'as déjà montré de quelle manière tu vas faire. Juste le fait de savoir, tu es mon Dieu, ça me suffit pour reprendre espoir. Tu n'es pas contre moi, tu es avec moi. Tu n'es pas contre moi, tu es pour moi. Tu es mon Dieu. Et en toi, je me confie. On l'a chanté, n'est-ce pas ? Mais est-ce qu'on l'a pensé? David le pensait. Il a ouvert son cœur. Il a dit à Dieu. Il lui a parlé. Il n'a pas caché le fait qu'il est en peine, qu'il a des douleurs, qu'il a des craintes, etc. Mais il a dit, malgré cela, ces choses ne m'empêchent pas, Seigneur. Je me confie en toi. Et là, on en arrive au verset qui nous intéresse à la fin. Il dit, fortifiez-vous. Parce que là, remarquez, il n'est plus en train de parler de lui maintenant. Pendant tout ce chapitre, il parle de son expérience. J'ai cherché en l'Éternel mon refuge. Je m'en suis remis. J'ai des chagrins, j'ai des peines. Et j'ai fait ceci, et tu as fait cela pour moi. Tout ce chapitre, c'est de lui qui parle à Dieu. Et à la fin, il parle à nous. David parle aux autres. Il dit, fortifiez-vous. C'est à vous maintenant de faire comme j'ai appris à faire. Malgré les peines, malgré les douleurs, malgré les luttes, malgré les déceptions, vous pouvez ne pas laisser ces choses vous abattre. Vous avez un cœur qui a besoin de s'affermir. Alors fortifiez-vous, que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Ce ne sera pas en vain. Il nous donne, avant ce verset 25, un petit rappel de toutes les fois que lui, il a dû faire exactement déjà cela. Il n'est plus... Encore une fois, il n'est pas en train de parler d'une théorie, d'une vérité que Dieu nous a donnée, qu'on connaît la vérité, on a la connaissance, la compréhension intellectuelle de la chose. Mais je suis passé par là moi aussi. Et je peux vous dire de le faire parce que je l'ai fait et ça marche. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Quand Dieu a promis qu'on peut trouver un refuge en lui, On le trouvera. Quand Dieu a dit que je peux trouver une forteresse en lui, je le serai. On peut s'en remettre, on peut lui faire confiance. On peut, ben, comme il a dit dans les versets 2 à 4, trouver en Dieu le refuge, la forteresse, le rocher, la protection et donc la force nécessaire. Et qu'à chaque fois que David a fait cela, il n'a jamais, jamais été déçu de l'avoir fait. De la même manière qu'il a trouvé la force qu'il avait besoin, chaque fois qu'il a placé sa foi, sa confiance en Dieu, il a trouvé que son cœur s'est affermi. David nous dit, ce n'est pas juste une vérité. Ce n'est pas juste une obéissance aveugle que Dieu veut qu'on fasse. C'est une vérité en laquelle nous pouvons croire et savoir que ce ne sera pas en vain. Alors, Dieu voulant, on regardera juste à trois choses par rapport à cette vérité. Hein, le verset 31, pour moi, parle de notre espérance, de notre faiblesse et ensuite de notre exhortation. Et la première chose, c'est notre espérance. On va commencer avec la fin de ce verset. Parce qu'il dit, vous tous qui espérez en l'Éternel. Ça, c'est notre espérance. Mais est-ce que ceci vous concerne? Est-ce que vous tous qui espérez en l'Éternel, c'est une définition qu'on peut utiliser pour qui vous décrit vous? Faites-vous partie de ces vous tous qui espérez en l'Éternel? Ou faites-vous partie, comme la grande majorité des hommes aujourd'hui, qui mettent leur espérance en eux-mêmes, dans leur travail, dans leur projet, dans leur force, et quand ils voient que ça n'aboutit pas comme ils auraient aimé, ils sont déçus. Si votre espérance est en quoi que ce soit d'autre que l'Éternel, il n'y a pas d'autre solution que d'être déçu. Ah, ce ne sera peut-être pas tout de suite, parce que certains sont plus forts et plus capables que d'autres, mais c'est toujours une question de temps. On va être déçu. L'Éternel et l'Éternel seul est une espérance qui ne déçoit jamais et qui ne décevra jamais. Vous tous qui espérez en l'Éternel, ce n'est pas juste une phrase qu'on peut ou qu'on devrait lire et passer à autre chose, mais c'est une phrase qui devrait nous interpeller, dire, est-ce que je fais partie de ces vous tous? Est-ce que j'espère réellement? Pas juste quand les conditions sont bonnes, mais est-ce que j'espère en l'Éternel? À chaque instant, à tout moment. J'espère, pour ainsi dire, que c'est vous. Je veux que ce soit moi, tout le temps, sans exception. Quelle meilleure et merveilleuse façon de vivre que d'être quelqu'un qui ne perd jamais l'espoir. Parce que notre espérance n'est pas en quelqu'un, ni en quelque chose, ni dans les circonstances, mais c'est dans un Dieu qui ne peut pas décevoir. Ce mot espère ici, c'est le même mot qu'on retrouve si souvent et qui est dans les psaumes et ailleurs, mais qui est également souvent traduit par le mot attendre. Et plus précisément, qui veut dire d'attendre avec patience, d'espérer en l'Éternel, d'attendre avec patience en l'Éternel. Vous tous qui attendez avec espérance ou avec patience en l'Éternel. Parce qu'on peut attendre patiemment et non avec crainte et tremblement. Parce que nous savons que notre espérance, notre attente n'est pas vaine. Qu'il va répondre, qu'il va pourvoir, qu'il va protéger, qu'il va faire tout ce dont on a besoin. On ne sera pas déçu d'avoir attendu patiemment pour voir Dieu agir. Celui qui doute, ben, il voit le temps comme une raison pour s'inquiéter plus, n'est-ce pas? Quand on a un problème et on a une date butoir à ce problème, le plus qu'on s'approche de cette date butoir, c'est le temps qui passe et qu'on n'a toujours pas de solution, ben ce temps devient notre ennemi. Le plus qu'on s'approche de cette date butoir, le plus qu'on s'inquiète. Celui qui doute voit le temps comme une raison de s'inquiéter plus, alors que celui qui place sa confiance en l'Éternel voit le temps comme son allié. Le plus que je m'approche de la date butoir, le plus proche que je suis de voir Dieu agir. Parce que Dieu ne peut faillir. Le plus qu'on s'approche de la date butoir, le plus que Dieu est proche à répondre à ce besoin. Mais ça, c'est la différence entre le doute et la foi, n'est-ce pas? Celui qui a foi ne voit pas le temps passer comme un ennemi, mais comme son allié. J'y fais parfois référence, c'est comme quand j'ai grandissé, comme beaucoup d'autres enfants, quand on a les longs voyages en voiture, on est supposé en tant que bon enfant, de dire, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on y est presque? Encore combien de temps? Et maintenant, et 5 minutes passent, mais pour nous, ça, on dirait que c'est 2 heures, et maintenant, on y est presque. Non. Et alors, mes parents, surtout ma mère, elle ne donnait pas. Il nous reste 30 minutes, ou il nous reste 1 heure, ou on dit, on s'y approche. Et c'était notre signe pour dire, on arrête de demander. Mais j'ai toujours aimé cette réponse. On n'est pas en train de s'éloigner du lieu qu'on doit aller. On n'est pas perdu. On n'est pas dans un autre chemin. On ne peut faire autre chose le plus que le temps passe, le plus qu'on s'approche de la destination. Et par la foi, quand on a un besoin, le plus que le temps passe, le plus que nous nous approchons du moment que Dieu va répondre. Et ce n'est pas facile, parce que notre cœur est si souvent faible, et ça on le verra après. On peut attendre avec patience parce qu'on sait que Dieu va agir. Le plus que le temps passe, le plus près on est de voir à Dieu s'accomplir sa promesse. La différence n'est pas Dieu. La différence n'est pas le temps qui passe. La différence est si nous faisons partie de ceux qui espèrent en l'Éternel, qui croyons en l'Éternel, qui faisons confiance en l'Éternel, qui faisons confiance dans la parole de Dieu, dans ses promesses, à cause de qui il est, lui, ou si nous sommes incrédules. On peut être sincère, comme on a vu ce matin. La sincérité ne remplace pas la foi. J'espère en l'Éternel, non parce que je mérite qu'il me vienne en aide, mais parce que Dieu m'aime malgré moi. Le fait que Dieu utilise ce mot espérance montre bien qu'on peut attendre avec cette anticipation positive, c'est la façon que j'aime le regarder, sachant que Dieu prendra soin de moi. On espère en quelque chose de négatif. Vous savez, je n'attends pas. Je n'espère pas en quelque chose à venir qui est pénible. J'appréhende ce moment. Mais si j'ai une espérance, c'est automatiquement quelque chose de positif. Et si j'espère en l'Éternel, bah, c'est que j'ai cette confiance de quelque chose de positif qui va arriver, et non de négatif. Si nous faisons partie de ceux qui espèrent en l'Éternel, cela devrait impliquer automatiquement qu'on attend de quelque chose de positif de la part de l'Éternel. J'attends, Seigneur, mais j'espère que tu y arriveras. Ça, c'est pas positif. J'attends patiemment, Seigneur, que tu pourvoies, mais j'espère que tu le feras à temps. Ça, c'est pas positif non plus. On attend son secours, on attend sa force, on attend son aide. On n'attend pas avec crainte, mais avec anticipation de recevoir une bonne nouvelle. Faites-vous partie de ceux qui ont appris à espérer en l'Éternel, d'attendre avec patience, sachant qu'il agira à temps et comme il faut. Même quand les circonstances sont troublantes, sans vouloir nous submerger, nous pousser vers le fond, impossible à respirer, Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, je m'en remets entièrement à toi, comme il a dit le verset, mais en toi je me confie, peu importe les circonstances qui me font réellement peur, etc. Mais en toi, je me confie, parce que vous tous qui espérez en l'Éternel ne serez pas déçus. Dieu continue à nous dire aujourd'hui, espère en moi, aie confiance. Je ne t'ai pas oublié, je ne suis pas ignorant de ta situation qui est spécifique à toi. Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi tu te trouves dans cette situation pour que tu me fasses confiance. Sache que je suis là. Et je vais prendre soin de toi. Je ne suis pas le moyen berger, je suis le bon berger. Je ne suis pas le feignant berger, je suis le bon berger. Votre connaissance de qui Dieu est devrait être plus que suffisante pour que vous mettiez votre espoir, votre confiance et votre force en lui. Quand votre cœur voudrait arriver au point d'abandonner, vous avez la capacité de l'affermir. Si seulement vous voulez bien placer votre espérance en Dieu, et non de faire confiance en Dieu seulement si les conditions et les circonstances sont favorables. Vous connaissez peut-être Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour que vous abondiez en espérance, mais en espérance de quoi? Pas la première, en l'Éternel. Je n'ai aucune espérance si je mets l'Éternel en deuxième place? J'ai mon espérance que ce que j'ai prévu marche, sinon j'ai Dieu en roue de secours. Ça ne marche pas comme ça, l'espérance. Ça ne marche pas comme ça, la vie chrétienne non plus. Voyez comment notre espérance n'est pas basée sur nous, sur notre force et la force de notre propre persuasion. C'est pour ça que d'être sincère ne suffira pas. Le Dieu de l'espérance, il le dit même dans ce passage de Romains 15, 13, c'est le Dieu de l'espérance qui nous remplisse de toute joie et de toute paix. C'est Dieu qui ne produira jamais autre chose que la joie et la paix, pas la déception. Pour qu'il dit, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Et j'aime qu'il mette cette précision, que cette espérance abonde dans notre vie. Et comme toujours, Dieu ne désire jamais donner à moitié, ni même le minimum. Dieu désire toujours nous donner une espérance abondante en utilisant le Saint-Esprit qui est en nous. Et j'aime penser à ce mot abonder comme le mot déborder. Hein? Le mot veut littéralement dire superabonder, hein, si on veut translittérer littéralement ce mot. D'abonder excessivement. Dans ma tête, hein, dans mon esprit, quand je lis ce mot abonder, je le remplace souvent par déborder. Et ça déborde. Si l'espérance que Dieu me donne à travers le Saint-Esprit déborde dans ma vie, dans mon cœur, alors il va de soi qu'il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'autre. D'où le résultat de la joie et la paix. Si la joie et la paix vous manquent, surtout à cause des circonstances ou autre chose, bah peut-être que c'est parce que votre espérance n'est pas en l'Éternel. Parce que l'espérance que Dieu nous donne est une espérance qui abonde, qui déborde de tout part et produit la joie et la paix. Faites-vous partie de ceux qui espèrent en l'Éternel, pas en parole seulement, mais en pratique. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais peur de rien. David nous le montre, il nous en a parlé. Mais que cette même peur, cette même crainte ne sont plus les sentiments qui nous contrôlent et nous empêchent de faire confiance en Dieu et de s'en remettre entièrement à lui, sachant qu'il ne va pas nous décevoir. Et autant que j'aime parler de l'espérance que nous avons en l'Éternel, je pourrais le faire toute la matinée, je me dois de parler de quelque chose d'un peu plus désagréable. Ce verset 31 dans le psaume parle également de notre faiblesse, qui est notre cœur. Que votre cœur s'affermisse. Qu'on aime le reconnaître ou non, notre cœur est faible. Rien que le fait que Dieu ait besoin de le mentionner ici montre l'évidence que parfois notre cœur va faiblir. Qu'il nous dise que votre cœur s'affermisse, ça veut dire que parfois notre cœur n'est pas ferme, qu'elle n'est pas forte. Elle a besoin d'être affermie. Il faut qu'on ait connaissance de notre faiblesse avant qu'on reconnaisse, admettre que notre cœur peut s'affaiblir avant de pouvoir espérer avoir un cœur ferme, fort et confiant. C'est une faiblesse qu'on ne doit pas prendre à la légère non plus. Un cœur faible est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer ni même banaliser. Même dans le monde médical, hein, l'état de notre cœur physique n'est jamais à prendre à la légère, n'est-ce pas? Un docteur va agir différemment si on vient avec un mot de tête ou si il reconnaît qu'il y a quelque chose qui va mal avec notre cœur. Et même nous-mêmes, on le prend différemment. Le fait est que ce verset nous rappelle que parfois nous avons besoin que notre cœur s'affermisse parce que notre cœur est faible. Ceci se trouve être vrai souvent lorsque nous faisons face à la tentation. Notre tête nous dit que c'est mauvais. Nous avons la connaissance et la compréhension de la volonté de Dieu sur la question. Mais notre cœur nous pousse à agir contre la volonté de Dieu. Notre cœur est faible et nous encourage à laisser tomber ces choses pour se satisfaire soi-même. Pour lutter contre cette tentation, on n'a pas besoin d'affermir notre connaissance, mais d'affermir notre cœur. Quand nous voyons que notre cœur est faible, que nous avons du mal à continuer à faire ce que nous savons être juste, il faut qu'on se rappelle de ce verset, que notre espérance est en l'Éternel, que c'est lui qui peut et va affermir notre cœur, c'est lui qui fait vraiment toute la différence. Pas la force de ma volonté, pas à quel point j'ai une bonne connaissance des Écritures, pas ma persuasion personnelle, mais l'Éternel. Avec Dieu, nous sommes forts. Nous sommes plus que vainqueurs. La connaissance de cette vérité nous réjouit, mais c'est quand nous prenons vraiment cette vérité à cœur qu'elle fait son œuvre dans notre vie et qu'elle a affermi notre cœur. Et là, j'étais tenté de partager. Il y a tellement de versets dans les Écritures qui nous parlent justement de notre cœur. Et je m'en suis réfrain parce que je savais que je n'aurais pas eu le temps ce matin. Mais je vous encourage, vous pouvez faire juste votre propre recherche. Et voyez de quelle manière Dieu, lui, voit et parle de notre cœur. Et ce que lui désire faire à travers nous, à travers notre cœur. Mais il ne nous donne pas seulement notre espérance et notre faiblesse, mais heureusement qu'on a également cette exhortation pour terminer. Notre exhortation, il dit, ce verset commence avec les mots « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. » « Fortifiez-vous », il dit. Ne manquez pas ce qui nous est dit ici, cette conjonction de coordination qui est très importante. Il nous dit, il nous exhorte, nous encourage, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Les deux sont liés et votre cœur s'affermira dans le processus. Il ne dit pas qu'on doit se fortifier seulement, il ne dit pas qu'on doit affermir notre cœur sans qu'on ait rien à faire de notre côté non plus, qu'on n'a pas de responsabilité sur la question. Ce mot fortifiez-vous peut également être traduit par prenez courage ou soyez courageux. C'est les mêmes mots qui sont utilisés dans ce terme ici de fortifiez-vous. Prenez courage. Je vois en cela la même exhortation qu'on pourrait donner à notre enfant quand peut-être s'il tombe par terre, hein, il se fait un peu mal. Il dit allez, relève-toi. On s'assure qu'il n'y a pas une jambe cassée ou quoi que ce soit, mais on va dire hey, c'est rien. On l'aide, on enlève un peu la poussière ou sur les genoux, etc. Dit, mais on va pas l'encourager à rester par terre. On va pas l'encourager à pleurer sur son sort. On va reconnaître le mal qu'il a eu. On va pas négliger le fait qu'il est tombé et qu'il a eu mal, mais on va pas mettre l'accent là-dessus non plus. On va l'aider à surmonter cela, à pouvoir se relever, de continuer et de laisser ça en arrière. Et c'est un peu le même esprit qu'il nous donne ici quand il dit fortifiez-vous. Il dit tout ce chapitre avant, il nous parle des peines et des souffrances et des difficultés que lui, il a connues dans sa propre vie, David. Il dit, mais ce ne sont pas ces difficultés qui vont me définir. C'est ce que Dieu a fait à travers ces choses. De quelle manière Dieu m'a aidé à me relever. De quelle manière Dieu a utilisé ces mêmes difficultés, ces problèmes pour prouver que j'ai eu raison de trouver en lui un refuge et un rocher, une forteresse et une aide. Il ne met pas l'accent sur tous ses problèmes, sur ses difficultés, le fait de combien de fois il est tombé à terre. Il met l'accent sur le fait que malgré le fait qu'on tombe, malgré le fait qu'on est mal, malgré le fait qu'on a des soucis, malgré le fait qu'on a des choses qui nous perturbent, on peut choisir de se relever, secouer la poussière qui est sur nous, de faire confiance que Dieu est là. Dieu comprend nos peines, Dieu comprend les souffrances qu'on a, mais Dieu nous aide également à avoir la force de nous relever, de ne pas rester terrassé par les problèmes, de ne pas rester à terre à cause des problèmes, de vouloir nous relever, de continuer. Et il dit, fortifiez-vous, n'est-ce pas l'inverse de dire, ou la même chose de dire, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez, si vous passez par un moment difficile, douloureux, qui voudrait, hein, vous garder à terre, fortifiez-vous, prenez courage, relevez-vous, secouez cette poussière sur vous, sachez que Dieu est là. Comme un père, il vous tend la main même pour vous aider à vous relever. Dieu va affermir votre cœur, mais il veut d'abord voir votre volonté de vouloir vous relever. Il vous tendra la main, mais ce sera à vous de prendre sa main et de le laisser vous donner la force en vous tirant vers le haut. Mais c'est un peu comme on voit Christ le faire si souvent, n'est-ce pas, avec les personnes qu'il guérit. Si tu es guéri, prends ton lit et marche. C'est pas Christ qui est allé vers lui pour le relever, n'est-ce pas? pour le soulever, cette personne devait montrer sa volonté de vouloir se relever, se lever. Et il dit, fortifiez-vous. C'est à toi de montrer cette volonté de faire confiance en l'Éternel. Je vais me relever, pas parce que je suis si fort, parce que je trouve la force en moi, mais parce que je sais que c'est ce que Dieu veut et lui m'aidera à pouvoir continuer. Je ne vais pas laisser cette circonstance, ce problème, cette difficulté me garder à terre. C'est sa force qui va me fortifier. Après tout, Dieu n'est-il pas digne de confiance? Dieu n'est-il pas, ne mérite-t-il pas qu'on lui fasse entièrement confiance? Est-ce que sa force ne sera-t-elle pas suffisante pour nous? Fortifiez-vous parce que vous servez un Dieu qui est tout-puissant. Fortifiez-vous parce que vous servez un Dieu qui vous aime. Fortifiez-vous parce que vous servez un Dieu qui n'est pas insensible à vos douleurs, mais qui est également plus que capable de vous aider. Fortifiez-vous, non parce que vous êtes courageux, mais parce que le contraire ne peut pas être acceptable. De ne pas faire confiance à Dieu, de rester à terre. Parce que qu'arrive-t-il quand on se refuse de se fortifier en l'Éternel? On va être défaitiste. On refusera le combat. Et même si on va au combat, on y va comme ayant déjà perdu. On ne voit pas la solution que Dieu nous donne pour nous aider. On reste à terre. On devient une victime au lieu d'être une personne qui peut être utile et aidée. Quand on refuse de se fortifier en l'Éternel et d'avoir notre cœur affermi par ce Dieu d'espérance, parce que notre espérance est en lui, oui, on est devenu maintenant une victime, qu'on a besoin d'être aidé au lieu d'être celui qui aide notre frère ou sœur en Christ. Dieu nous appelle à être des soldats de Christ et non des prisonniers de guerre. Fortifiez-vous, ça ne va pas être toujours être facile, mais gardez espoir. Dieu va affermir votre cœur et si votre espérance se trouve en lui, votre cœur sera affermi. Dieu est tout-puissant, il ne ment point, il ne faillira point, il ne reviendra pas sur ses promesses. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Est-ce votre témoignage? Je ne demande pas, est-ce que c'est le témoignage de l'autre qui se trouve dans la salle? Est-ce votre témoignage? Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Êtes-vous connu pour être une personne qui ne doute pas de la personne même de Dieu? Que vous avez une espérance, une confiance ferme en la personne de Dieu, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les moqueries. Vous vous relevez encore et encore, non parce que vous êtes si fort, mais parce que votre espérance est en l'Éternel. Et donc, vous acceptez de vous relever à chaque fois, de prendre courage, de vous fortifier. Et en faisant cela, le Seigneur permet à ce que votre cœur s'affermisse. Alors pour conclure, nous avons également une promesse. La promesse est que c'est Dieu qui nous promet d'affermir notre cœur quand on choisit de ne pas se laisser abattre et placer notre espoir, notre confiance en l'Éternel. Sinon, Dieu, il aurait dit, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui êtes forts. Mais il ne dit pas cela. Que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Dieu nous promet que notre foi en lui, notre espérance, n'est jamais vaine. Il a promis de pourvoir à nos besoins, n'est-ce pas? Il promet de nous garder, de nous protéger, pas de nous épargner de tous les problèmes. Parfois, certains ont une confusion dans ce domaine. Dieu n'a jamais promis de nous épargner des problèmes. Mais il nous a promis de nous garder, de nous protéger, de ce que les problèmes ne vont pas nous terrasser, nous garder à terre. Et que toutes choses seront utilisées pour notre bien si nous choisissons d'aimer Dieu plus que tout. Il promet de pardonner encore et encore, effaçant à chaque fois notre péché. Non parce qu'on le mérite, mais par sa grâce, parce que lui a choisi de nous aimer. Il promet de fortifier, d'être compatissant, de comprendre notre douleur, mais pas d'accepter que la douleur soit une raison pour que nous lui soyons désobéissants. Il promet de donner sagesse si nous la demandons avec foi. Il promet de nous envoyer Jésus-Christ une deuxième fois pour venir nous chercher et nous ramener auprès de lui. Ces promesses me fortifient très très régulièrement. De plus en plus que le temps passe. Encore une fois, le temps est mon allié dans ce domaine. Le plus que le temps passe, le plus qu'on se rapproche du retour de Christ. Il promet de ne pas être un Dieu distant et lointain, mais d'avoir une communion avec nous, d'être avec nous chaque jour et même de combattre avec nous pour que nous puissions terminer notre course avec honneur. Dieu promet que le Saint-Esprit est un grand consolateur. Mais vous savez ce qui est important avec les consolateurs? C'est que les personnes qui essayent de consoler acceptent la consolation. Et on se dirait, mais bien sûr qu'ils l'acceptent. C'est souvent pas le cas. Parce que souvent, on préfère recevoir la pitié que d'être consolé. Mais Dieu a dit, le Saint-Esprit est le grand consolateur. Je viens te dire ce qui est et comment ne pas laisser ces choses te détruire et te ramener vers le bas, si seulement tu veux bien m'écouter. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dieu promet que Christ intercède en notre faveur auprès de lui. Il est notre avocat, notre défenseur. Dieu nous promet qu'il est fidèle et juste, que sa grâce surabonde, déborde, que son amour est sans limite, sans fin, que sa miséricorde dure à toujours. Nous pourrions continuer toute la journée à parler de rien d'autre que toutes les promesses que Dieu nous a données. On n'aurait toujours pas le temps de toutes les voir. Mais que pourrait-il nous promettre de plus avant qu'on fasse le choix de lui faire confiance, de placer notre espérance en lui pour qu'il puisse fortifier notre cœur, afin d'être encouragé, d'avoir ce cœur affermi, fort, parce que notre espérance se trouve en l'Éternel et rien ni personne ne pourra nous faire douter de lui, rien ni personne ne pourra nous faire douter de ses promesses. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Que ceci soit mon témoignage. Peu importe l'expérience que Dieu me permet de traverser, que cela ne change pas ce témoignage dans ma vie. Je fais partie de ceux qui espèrent en l'Éternel à chaque instant. Prions, s'il vous plaît.